Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, on est au mois de mai 387. Saint Augustin, fraîchement converti, accompagne sa mère, Sainte Monique, à Ostie, au port de Rome, pour embarquer vers l'Afrique, vers Carthage. C'est le soir. Ils sont face à la mer, Méditerranée, et réfléchissent, tous les deux. Elle qui a tant prié pour la conversion de son fils, le voilà maintenant converti, décidé à faire un voyage éclair en Afrique pour liquider ses biens et devenir prêtre. Et ils s'entretiennent. En voyant la mer immense, en regardant le ciel, il pense à Dieu. Il pense à l'au-delà. Il pense à cette réalité, l'unique réalité pour laquelle l'homme est fait. La réalité de Dieu. Et ils se disent entre eux, quand ? Quand serons-nous au ciel ? Pour Sainte Monique, ça n'a pas été long. Quelques jours plus tard, 9 en tout. Une neuvaine. Elle n'a jamais revu l'Afrique. Elle est morte de joie et d'amour. En ayant vu son fils converti, revenu dans la direction que Dieu veut voir prendre à tout homme, elle pouvait partir. Et elle est partie rejoindre cette immense foule des saints que l'Église nous montre aujourd'hui, qu'elle offre à notre méditation, la Toussaint. Quelle belle fête. Il y en a besoin de s'élever, de nous élever, nous aussi, vers ce qui est invisible encore pour nous, mais ce qui est tout de même une réalité, la réalité de ces bienheureux. Et c'est encore plus émouvant pour nous à la pensée d'y reconnaître parmi tous ces heureux élus, des parents, des amis, des gens qui ont partagé à un moment notre vie sur la terre et qui sont maintenant dans la pleine vision et possession de Dieu. Vous savez, mes chers frères, il y a dans notre credo catholique un dogme qu'on appelle la communion des saints. On n'y pense peut-être pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire, la communion des saints ? C'est une réalité cachée, mais bien réelle, profonde, une union entre tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont dans la grâce du Christ. Quand je dis « je crois à la communion des saints », eh bien j'affirme, je crois que tous les hommes, quelle que soit leur race, leur langue, leur pays, la date de leur existence sur la terre, du moment qu'ils sont unis à Jésus-Christ, sont unis entre eux, dans une humanité fraternelle. Je dis bien du moment qu'ils sont unis à Jésus-Christ. Et entre eux, il y a une communion très profonde, bien que cachée. entre ceux du ciel qui forment l'Église triomphante, nous qui sommes sur la terre qui formons l'Église militante, et les âmes du purgatoire qui forment l'Église souffrante. Il y a intercommunication entre ceux du ciel, de la terre et du purgatoire. Parce que nous faisons tous partie du même corps qu'est l'Église catholique. Nous sommes membres du corps mystique du Christ. Et donc, entre nous, il y a la même vie qui circule, la vie de la grâce, la vie divine. Et nous pouvons, grâce à cette société, si vous voulez, de secours mutuel, nous entraider les uns les autres. Et aujourd'hui, l'Église nous demande de regarder justement vers ses élus, vers les saints du ciel. Et eux aussi se penchent vers nous parce qu'ils ne peuvent pas nous oublier. Et par leur prière, ils nous aident à les rejoindre, car c'est cela qu'ils désirent avant tout. Alors, mes bien chers frères, la liturgie tout à l'heure, vous l'avez entendu vous-même, elle nous invite à nous réjouir. Parce qu'au ciel, il n'y a que la joie. Une joie sans mélange. Tant de fois, Jésus-Christ nous a parlé du ciel. Réjouissez-vous, soyez dans la joie et l'allégresse, votre récompense sera grande dans le ciel. Venez les bénis de mon Père, prendre possession du royaume qui a été établi pour vous depuis l'origine du monde. N'amassez pas des trésors pour la terre où les voleurs, les mites et la rouille détruisent tout, mais pour le ciel, où plus rien n'est périssable. Alors les saints du ciel sont arrivés au but. Ils sont en pleine possession de Dieu, de tous les biens de Dieu. Évidemment, c'est difficile de nous faire une idée de ce qu'est le ciel, parce que c'est sans comparaison avec tous les bonheurs qu'on peut avoir sur la terre. Il existe parfois des bribes de bonheur sur la terre, mais c'est passager, c'est imparfait. On peut retomber très rapidement ensuite dans une profonde détresse, dans la souffrance. Au ciel, il n'y a plus rien de tout cela. Et alors, avec ce dogme de la communion des saints, on peut forcer les portes du ciel et aussi les portes du purgatoire. Et on peut échanger, nous entraider. Et c'est ce que l'Église veut nous faire comprendre aujourd'hui. Quelques exemples. Voici un pécheur qui a un lourd passé. Il n'arrive pas à se débarrasser de son péché, il n'arrive pas à se confesser, il n'a pas le courage. Quelque part dans le monde, une petite fillette qui dit son chapelet. Et elle lui obtient la grâce de se confesser. Voici un jeune, tourmenté, au bord de perdre la foi, la grâce, la pureté, tenté violemment par le démon, par les passions. Voilà une carmélite, quelque part dans son couvent, qui veille et qui prie pour que Dieu protège ceux qui sont au bord du gouffre. Et elle lui obtient la grâce de ne pas succomber à la tentation. Voici quelqu'un qui est au bord du désespoir, parce que marqué par toutes sortes d'épreuves, de deuils successifs, d'échec, et qui est prêt à sombrer, à douter de tout. Sur un lit d'hôpital, un malade offre sa souffrance à Dieu pour ce que Dieu voudra. Et sans même le savoir, il obtiendra à se désespérer la grâce de retrouver l'espérance, la confiance, la foi en Dieu. Si bien qu'on a raison de dire que souvent les plus belles pages de notre vie sont écrites par le mérite des autres. Qui sont ces autres? Nous les connaîtrons au ciel. Et nous verrons, nous serons émerveillés de voir combien de coups de main nous avons reçus en vertu de la communion des saints. Et combien de coups de main nous avons donnés parce que nous avons cru à ce dogme de la communion des saints. Alors, mes bien chers frères, il faut penser à cela aujourd'hui. Parce que terre, ciel, purgatoire, finalement, ça forme une seule réalité. La terre et le purgatoire sont passagers. Le ciel est définitif, éternel. Et ça fait des millions, des milliards d'hommes, de femmes, de toutes conditions sociales, de tout pays, qui sont déjà dans cette éternité de bonheur. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aujourd'hui, ces gens-là, qui célèbrent la liturgie de la Toussaint au ciel, ils nous disent, gardez la foi, c'est la lumière absolument nécessaire pour voir clair, pour vous diriger dans la vie et pour atteindre ce que nous avons atteint. Vivez votre foi catholique intensément, pas en amateur comme ça, à peu près d'une façon médiocre, tiède, mais intensément, parce que c'est la réalité que vous devez atteindre. D'un moment à l'autre, vous pouvez être basculé dans l'éternité. Tenez bon, persévérez. Jésus n'a-t-il pas dit, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin, seul celui-là sera sauvé. Les saints ne sont pas indifférents, pas à notre égard. Ils sont allumés par la charité, le feu de la charité parfaite, l'amour de Dieu. Et bien sûr qu'ils veulent que nous vivions nous aussi de cette charité, que nous cherchions l'amour de Dieu. Et donc que nous utilisions tous les secours que Dieu, par son Église, cesse de nous donner, à travers la prière, la messe, les sacrements, pour que, dans notre vie concrète, nous arrivions à nous conduire en chrétien, la tête au ciel, tout en ayant les deux pieds sur la terre encore, avec cet esprit surnaturel, où l'âme domine le corps, en étant rempli de sagesse et non pas en nous comportant comme des écervelés, des insensés qui mettent leur cœur dans les choses du monde ou des passions ou de la chair ou de l'argent ou qui se laissent piéger par les faux bonheurs que fait miroiter le démon à tant d'hommes aujourd'hui. Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? Voilà ce que les saints nous disent, eux qui sont maintenant loin de toute souffrance, de toute tentation, de tout péché, eux qui sont dans la pleine béatitude, béatitude de l'intelligence, ils connaissent la vérité. béatitude de la volonté. Il voit que tout ce que Dieu veut est beau et bon. Et c'est cela qu'ils ont fait, la volonté de Dieu. Béatitude aussi de la mémoire. Tout ce que Dieu veut, parfaitement, de toutes les merveilles que Dieu a opérées depuis le début du monde jusqu'à la fin, et dont ils ont été eux-mêmes les bénéficiaires. Béatitude de l'âme et du corps aussi, puisque le corps va participer avec la résurrection à ce bonheur éternel du ciel, parce que l'homme est fait de corps et d'esprit, et Dieu fait entrer tout l'homme dans le ciel, comme Jésus-Christ, bien sûr, est déjà avec son corps, la Sainte Vierge également, dans cette béatitude éternelle du ciel. Alors, ils ont la certitude de ne plus jamais perdre cela. Et ils ont aussi, bien sûr, la certitude de n'avoir jamais aucun dégoût, ni aucun ennui. Parce qu'on ne peut pas, alors qu'on est avec Dieu, avec le bien infini, connaître quelque tristesse ou quelque dégoût ou quelque ennui. C'est la béatitude parfaite. Et qui dure pour l'éternité. Et alors, ces saints possèdent le ciel maintenant parce qu'ils ont été fidèles à la grâce, non pas qu'ils aient été impeccables. Ils ont eu des misères. Ils ont eu besoin de se confesser, de prier, de faire ce que nous faisons nous ce matin. Mais ils ont persévéré. Et maintenant, ils sont débarrassés de toute misère. Ils sont dans la joie et la paix de Dieu. Et alors, ce bonheur qu'ils connaissent, nous devons le connaître à tout prix. Et c'est pour cela que nous devons regarder vers le ciel, désirer le ciel, un peu comme Sainte Monique qui, à travers cet espace maritime, à travers ses pensées qui s'en allaient au-delà de la mer, vers Dieu, désirait ce bien infini, désirait connaître Dieu, désirait être uni pour toujours avec Dieu. Nous devons désirer le ciel, beaucoup plus que tous les biens réunis de la terre. Et vous savez bien que souvent nous désirons tout le reste, sauf le ciel, tellement nous sommes terre à terre. Et si on nous disait aujourd'hui, vous pourrez partir au ciel, peut-être n'aurions-nous pas l'envie, tellement nous sommes encore attachés à des choses terrestres qui nous paraissent plus importantes, alors qu'en réalité, comme dit saint Paul, à côté du bonheur du ciel, c'est du fumier. Saint Thérèse d'Avila, qui avait une vision du ciel, était tellement émerveillée qu'elle ne trouvait pas de mots dans le vocabulaire pour exprimer ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. Et Jésus qui lui déclare, tu vois Thérèse, comme ils sont fous les hommes qui méprisent cela, qui oublient cela, qui se vautrent dans du fumier finalement, alors qu'ils sont faits pour la lumière éternelle. Alors, eh bien, chers frères, il faut faire attention à deux choses, parce que nous devons à tout prix aller au ciel. Si nous n'allons pas au ciel, nous irons en enfer. Ce n'est pas le jour pour en parler. Parce que ce sont les deux réalités éternelles. Les autres sont passagères. À tout prix, nous devons aller au ciel. Mais pas de présomption. En ce sens que nous pourrions croire que le ciel, c'est facile à atteindre, c'est du tout cuit, qu'on se comporte d'une façon ou d'une autre, de toute façon on ira au ciel, comme on l'entend souvent aujourd'hui. Dieu est bon, on va tous au ciel, il n'y a personne en enfer, et encore l'enfer n'existe pas. Pas de présomption. Jésus nous met en garde et nous dit, la route qui mène au ciel est étroite, et bien peu la prennent. Beaucoup d'appelés, dit-il, peu d'élus. Et d'autre part, il ne faut pas non plus le décourager en ce sens que on croit que c'est trop difficile, qu'on n'y arrivera pas. Dieu n'a pas fait le ciel pour simplement les plus grands saints, il a fait le ciel pour tout homme qui croit en lui. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais croire, pas seulement de parole, mais avec les actes, avec les œuvres de la foi. La certitude du salut est donnée par le Christ, rédempteur de tous les hommes, à tout homme de bonne volonté. Voilà ce que nous devons être. Des âmes de bonne volonté. Et à ce moment-là, nous pourrons, malgré les misères de la vie, arriver finalement un jour à rejoindre les saints du ciel. Alors partageons leur joie aujourd'hui, honorons-les, demandons leur intercession, leur secours, ils sont si puissants auprès de Dieu, imitons-les, et puis demandons particulièrement à celle qui est la reine de tous les saints, la reine du ciel, de nous aider à travailler pour cela, à mettre cet objectif éternel à la première place dans notre vie, pour que, à tout prix, je le répète, à tout prix, nous arrivions un jour à fêter la Toussaint au ciel, avec tous les élus. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, dans ces exercices spirituels, saint Ignace, après avoir conduit le retraitant vers une bonne confession générale, lui montre l'option qu'il doit faire, représentant la méditation des deux étendards, l'étendard du Christ et l'étendard de Satan. Le Christ appelle tous les hommes à le suivre pour arriver au royaume de son Père. Satan fait la même chose, mais pour les conduire dans son royaume à lui, le royaume des ténèbres. Notre Seigneur, en appelant les hommes à sa suite, ne leur fait pas du rabais. Il les appelle à se renoncer et à le suivre sur le chemin qu'il a pris lui-même, le chemin de la croix. Satan, lui, ne va pas dire aux gens « Venez tous avec moi, je vais vous conduire en enfer. » Il n'y aurait personne qui irait. Il trompe. Alors il promet les biens terrestres et il excite les passions humaines. Ceci pour que les hommes oublient les réalités éternelles. Alors il y a donc ces deux camps qui s'opposent et ces deux chefs qui s'opposent aussi. Oh, cela c'est vieux comme le monde. Déjà après le péché originel, Dieu dit au serpent, au diable, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne. Tu chercheras la mort au talon, elle t'écrasera la tête. » Une inimitié. Entre le démon et la femme, c'est la Vierge Marie. Et sa race, sa descendance, c'est le Christ et tous les chrétiens, nous tous, qui sommes de l'Église catholique. Il y a donc une inimitié entre la descendance du Christ et la descendance de Satan. Et à travers tout l'Ancien Testament et toute l'histoire de l'Église, on remarque cet antagonisme entre les fils de Dieu et les fils de Satan. Il y a eu des vrais prophètes et des faux prophètes. Les vrais prophètes prêchaient la religion de Dieu, la promesse du Messie, et les faux prophètes disaient le contraire. Et quand Jésus lui-même est venu sur la terre, à peine était-il né, que déjà la contradiction s'est faite. Siméon le disait du reste à la Sainte Vierge, il sera un signe de contradiction. Et il viendra pour la ruine et le salut de beaucoup. Et à son sujet, les vraies pensées cachées dans les cœurs seront dévoilées. Et déjà au moment où il est né, quelque temps juste après, Hérode voulait déjà s'acharner contre lui pour le faire disparaître. On voit toujours ces deux camps. Et dans l'histoire de l'Église, les amis du Christ, commencés par les apôtres, sont persécutés par ceux qui travaillent pour Satan. Ils sont martyrisés, ils sont mis à mort. Et saint Augustin, qui a vécu au IVe siècle et qui a vu arriver la chute de l'Empire romain, parce que les Romains ne pensaient plus qu'à s'amuser, parlait de la cité de Dieu et de la cité du diable. Et aujourd'hui dans l'Église, c'est clair qu'il y a la lutte entre ces deux cités. Il y a la lutte entre la femme et le dragon. Il y a la lutte entre les vrais catholiques qui veulent rester fidèles et ceux qui se laissent emporter par le modernisme et le libéralisme et qui aboutit à l'apostasie, à l'impiété. Ça se voit jusque dans nos familles. Et on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Cette lutte, elle est inscrite dans le cœur de chacun de nous. Vous sentez bien l'appel du Christ et l'appel de Satan. Saint Paul se plaignait déjà lui-même. Il y a en moi comme deux êtres. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. On va tellement regarder ailleurs, il y a cette lutte en nous. Et nous sommes amenés à choisir. Ou nous sommes pour le Christ, ou nous sommes contre lui. Il n'y a pas de milieu. Alors cette lutte parfois est pénible, bien sûr, à mener, mais elle doit être menée. Il n'y a rien à faire. Et vous avez dans l'histoire du monde des hommes, des gens qui étaient contre le Christ, et qui se sont convertis, ils sont venus pour lui. Je parlais tout à l'heure de saint Augustin, il était d'abord contre, à fond contre. Il s'est laissé prendre au piège du démon qui l'invitait à jouir de la vie le plus possible. Jusqu'au jour où, grâce aux prières de sa maman et à l'enseignement de saint Ambroise, il a compris. Lui qui était pourtant une intelligence remarquable, qui se faisait avoir. Alors il s'est converti. Et il est devenu un apôtre du Christ. Tout comme saint Paul, au début, était acharné contre les chrétiens. Et ensuite, après avoir eu la grâce d'une apparition du Christ, il s'est converti. Il est devenu l'apôtre des nations païennes. Et qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour le nom du Christ ? Il y en a d'autres qui étaient pour le Christ et qui sont devenus contre lui. Judas était pour le Christ, un des 12 apôtres. Il a bénéficié de tout l'enseignement du Christ, il a vu les miracles. Et malgré cela, finalement, il a choisi Satan. Et il est devenu le fils de la perdition. Et aujourd'hui, à notre époque, combien de gens aussi bien chez les laïcs que chez les prêtres et les évêques et les plus hauts consacrés, qui étaient des modèles de piété, des modèles de chrétiens, et que tout d'un coup ont tout laissé tomber. Ils ont pris la voie large et ils sont partis dans l'autre camp. Et ils sont devenus des persécuteurs de ceux-là qui font la même chose qu'autrefois, quand ils étaient fidèles. C'est un exemple frappant aujourd'hui de voir, combien des gens qui étaient admirables sont passés de l'autre côté. Alors, mes chers frères, il ne faut pas faire les malins, parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Attention, cette lutte, nous devons la mener chacun personnellement. Et notre Seigneur, lui, comme il ne trompe pas, il nous appelle à le suivre, en développant surtout en nous la vertu d'humilité. Pourquoi l'humilité ? Oh, ce n'est pas parce qu'elle serait supérieure aux autres vertus, mais c'est parce qu'elle nous met dans la vérité de notre situation. Qui sommes-nous devant Dieu ? Rien. Lui est l'infini, et nous, qui sommes-nous ? C'est la vérité. Mais par rapport aux autres, nous n'avons pas à nous comparer, à faire les malins parce que nous aurions plus que celui-ci ou que celui-là. Même additionnés tous ensemble, les hommes ne font pas Dieu. Ils sont rien. Et cela nous met, nous établit dans une situation d'obéissance à Dieu, de soumission à sa loi et de patience vis-à-vis des autres hommes qui ont des qualités et des défauts comme nous. Et alors Jésus nous appelle à le suivre en prenant le chemin de la croix, en acceptant les humiliations de la vie, parce que pour faire un peu d'humilité, il faut accepter les humiliations et même les aimer. Parce qu'autrement, l'humilité, c'est la théorie. C'est justement au moment où on est humilié, où on accepte les humiliations, les épreuves de la vie, qu'on fait preuve d'un peu d'humilité. Dès que le démon, lui, fait le contraire. La vertu qu'il... le vice qu'il propose, c'est l'orgueil, la révolte contre Dieu, la révolution contre toute autorité, contre toute loi. C'est l'indépendance, c'est la liberté, la fausse notion de la liberté. Et il propose aux hommes, non pas l'esprit de détachement des choses de la terre, de renoncement, il propose aux hommes les richesses, les biens de la terre, les biens du corps, toutes les jouissances possibles. Ceci afin de leur faire oublier ce qui va venir après. Lui avait tous les biens. Il a tout perdu par son orgueil. Et ce qu'il veut maintenant, c'est exciter l'orgueil des gens pour qu'ils se dressent contre Dieu. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la puissance de Satan a atteint des proportions comme jamais dans l'histoire des hommes, et même à l'intérieur de l'Église. On peut dire que c'est lui qui a envahi jusqu'au plus haut sommet, et on sent bien le fruit de l'action du démon, c'est la fumée, c'est la confusion, c'est l'erreur, c'est le mensonge, sont les ténèbres, c'est la division, c'est la haine. Tandis que le fruit de l'action de Jésus, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est la pureté, c'est la charité, c'est la bienveillance. C'est ce que saint Paul nous rappelle dans l'épître d'aujourd'hui, en montrant la lutte entre la chair et l'esprit, et les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et c'est ce qui nous rappelle aussi l'Évangile, en disant, vous recherchez le royaume de Dieu d'abord, et sa justice, puis le reste vous sera donné par surcroît. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et sa justice ? Intérieurement, c'est notre âme, créée à l'image de Dieu et appelée à la sainteté. Parce que pour aller au ciel, il faut être saint. Extérieurement, le royaume de Dieu, c'est d'abord l'Église que Jésus a fondée pour rassembler les hommes et les conduire vers son Père. Et ce royaume de Dieu sera définitif au ciel, où là, effectivement, Jésus régnera sur tous les saints, sans problème. Tous les saints acceptent l'autorité de Dieu, ils ne font que lui manifester l'adoration, la reconnaissance. C'est ça qu'il faut chercher d'abord, Parce que c'est ça qui va arriver pour nous, pour chaque homme. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le futur, ce qui va arriver après notre mort, c'est déjà maintenant. Chercher le bien de nos âmes, chercher ce qui plaît à Dieu, chercher la sainteté, chercher la pratique des vertus. C'est ça qu'il faut chercher d'abord. Et c'est ce que beaucoup ne font pas, ils cherchent d'abord tout le reste. Ils cherchent l'argent, ils cherchent les plaisirs, ils cherchent les honneurs, ils cherchent les jouissances. Et puis, après tout ça, ils cherchent aussi un peu le royaume de Dieu. Mais du bout des doigts, sans vraiment se mouiller. Dieu vient presque en dernier de liste des préoccupations de beaucoup. Alors Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis faites confiance pour le reste à la divine providence qui nourrit les oiseaux et qui voudra bien s'occuper de vous. Et de fait, combien de fois n'avons-nous pas fait l'expérience que Dieu est providence. Et que si on le cherche vraiment lui, si on cherche son royaume, sa gloire, si on cherche à faire sa volonté, si on est capable de supporter quelques épreuves pour lui, si on sait accepter les humiliations de la vie, il donne, même sur le plan matériel, ce qui est nécessaire pour nous en sortir. Dieu est Dieu. Il est providence. Il ne cesse jamais vaincre en générosité. Alors voilà, mes bien chers frères, sous quel étendard marchons-nous ? Sur celui du Christ ou celui du démon ? Des fois, il y a un peu du mélange chez nous. Il y a un peu des deux. Il ne faut pas qu'il y ait des deux. Il faut renoncer au démon, comme on l'a fait pour le baptême, au moment du baptême, à ses pompes, à ses tromperies, à ses œuvres, pour adhérer à notre Seigneur de toutes nos forces. Et c'est là alors que nous trouverons le vrai sens à notre vie, la vraie joie, la vraie paix. Alors retenez bien cela. Nous voulons être de l'étendard du Christ, marcher à sa suite et chercher d'abord son royaume. Et le reste, nous faisons confiance à la divine providence. Dieu saura déjà nous donner tout ce qu'il faut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il y a justement 15 ans aujourd'hui, c'était en 1977, lors de la fête de la Sainte Famille, que nous avons commencé à dire la messe traditionnelle à Sion. C'était là-haut, dans la ruelle de la Lombardie, dans cette petite chapelle aménagée dans ce local sous une imprimerie, que nous avons commencé à célébrer la messe. Ceci pour assurer ici, en ville de Sion, la pérennité de cette messe et pour que vous puissiez plus facilement, sans trop devoir vous déplacer loin, venir chercher les grâces et prier notre Seigneur. Et nous avons voulu la dédier à la Sainte Famille, précisément pour confier nos familles à la protection de Dieu. Et l'avenir de la tradition catholique réside dans les familles. Ben, nous prenons tous de l'âge, et nous avons déjà bien des nôtres qui sont partis dans l'éternité pendant ces 15 ans. Et il faut que d'autres nous suivent. Et ce sont les jeunes qui fondent des familles, qui ont des enfants, et qui constituent l'avenir de la tradition. Dans une communauté où il n'y aurait plus de jeunes, plus d'enfants, ça serait à brève échéance la fin. Alors nous avons voulu placer ici, dans la capitale, la chapelle sous la protection de la Sainte Famille. Et il y a 5 ans, il y aura 5 ans cette année, au mois de février, que nous sommes dans cette chapelle ici, que nous avons pu construire malgré toutes sortes de difficultés. Mais les difficultés ont été finalement balayées. parce que nous avons eu la protection de la Sainte Famille. Et maintenant, nous sommes bien. Nous sommes bien logés. Cette chapelle de Sion, toute simple, est belle, elle est digne. Et elle vaut toutes les autres chapelles, l'église. D'ailleurs, c'est une église. Et une église dédiée à la Sainte Famille. L'église, justement, aujourd'hui, nous fait réfléchir sur la Sainte Famille parce que l'événement, c'est que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, a voulu venir vivre dans une famille pendant 30 ans. Lui est le Fils de Dieu, qui est toujours uni au Père et au Saint-Esprit. Et ce qui lie ces trois personnes divines entre elles, c'est la charité parfaite. Et voilà que lui descend sur la terre, devient un homme et prend place dans la famille de Marie, qui est sa vraie mère, et de Joseph, qui n'est pas son vrai père, mais qui est le père adoptif, choisi par Dieu parmi tous les hommes pour protéger la virginité de Marie et protéger cet enfant Dieu qui naît, qui grandit et qui va sauver le monde. Et alors, la présence de Jésus au sein même d'une famille est une présence sanctifiante. Lui est absolument saint et parfait puisqu'il est Dieu. Et le mystère, c'est qu'en étant Dieu et en prenant place dans une famille, lui, Jésus, s'abaisse. Il se fait petit, obéissant, pauvre. Il mène une vie cachée. Il ne laisse pas éclater sa divinité pendant 30 ans. Et cependant, tout en étant bien dans la famille de Nazareth, il est toujours uni à son Père. Et l'évangile d'aujourd'hui nous raconte l'épisode du temple où là, Jésus fait comprendre à ses parents qu'il est au service de son Père. Et il leur file pendant 3 jours. Il ne le trouve plus. Il disparaît de la circulation. On imagine l'émoi de Saint Joseph et la Sainte Vierge. Il remue ciel et terre pour le trouver. Finalement, il le trouve au temple, au milieu des docteurs de la loi. L'évangile, vous savez, mes frères, n'est qu'un résumé. Un petit résumé de tout ce que Jésus a fait et dit. Mais on peut imaginer que la présence de cet enfant de 12 ans au temple, au milieu des docteurs, n'est pas passée inaperçue. Parce que il a su non seulement répondre à toutes les questions qu'on posait à un garçon de cet âge, pour qu'on puisse lui donner un billet de majorité, un certificat comme quoi, sur le plan spirituel et religieux, il connaît les Écritures, il est majeur. Mais on était stupéfait par les questions que lui posait et que les docteurs ne pouvaient, auxquelles les docteurs de la loi ne pouvaient pas répondre. D'où lui venait cette sagesse, cette intelligence? D'autant qu'il sortait d'un trou de Galilée, de Nazareth, et les Galiléens, chez les Juifs, passaient pour des gens peu instruits. Qui lui a donné cette sagesse? Et il est probable que l'un ou l'autre de ces docteurs de la loi, car ils n'étaient pas tous tordus quand même, il y en avait des bons, devait se poser la question, mais qui est cet enfant? D'autant que c'était l'époque où le Messie devait paraître. Mais Jésus, après cet épisode de 3 jours, est reparti à Nazareth avec ses parents. Il a vécu une vie toute simple. Il a appris le métier de charpentier. Il a pris la place de Saint Joseph ensuite, après sa mort. Et il était parfaitement inconnu. Il a voulu vivre longtemps la vie familiale, en pratiquant les vertus toutes simples de l'obéissance, de l'humilité, de la piété, de l'amour vis-à-vis de ses parents, du travail, de l'effort, du sacrifice, tout ça dans le cadre tout simple d'une famille. Et ceci pour nous donner le modèle à suivre. Jésus, bien sûr, a été un modèle pour Joseph et Marie, c'est clair, mais il est surtout un modèle pour nous, pour nos familles. Et c'est toujours vers ce modèle qu'il faut regarder et voir ce qui, dans nos familles, correspond à l'exemple qu'il nous a donné et voir ce qui ne correspond pas pour améliorer et changer. Et cette fête de la Sainte Famille a été instituée par l'Église il n'y a même pas 100 ans. C'était justement parce que la famille était attaquée. Et depuis lors, elle a été toujours plus attaquée. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la famille a éclaté. Et jamais autant que maintenant, le monde, et le monde chrétien, a besoin de regarder le modèle que constitue la Sainte Famille. Et se laisser imprégner par ces exemples. Car la famille, voyez-vous, c'est ce que vous avez de plus cher. Vous vivez tous les jours dans une famille. Vous ressentez toutes les joies familiales et vous ressentez toutes les peines. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa famille ? Seulement, vous ressentez surtout aujourd'hui que dans beaucoup de familles, il y a des dangers très graves qui détruisent l'esprit chrétien, justement l'esprit d'obéissance, de piété, de pureté, l'esprit de sacrifice, pour laisser place à l'esprit de jouissance, à l'esprit de liberté, d'indépendance, à l'esprit d'insoumission, quand ce n'est pas l'esprit de révolte, de murmure. Et alors beaucoup de familles s'éclatent, sont divisées, se détruisent. Parce que l'esprit chrétien n'est plus le modèle, n'est plus la règle de vie. Ce qui devient la règle de vie, c'est l'esprit du monde. Et alors le monde, entrant en courant d'air de tous côtés dans cette famille, la détruit. Et si on n'a plus de famille chrétienne solide, ça se ressent au niveau du pays, des institutions à la fois civiles et religieuses. Et alors c'est la société en général et l'Église qui pâtissent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, c'est regarder l'ordre qu'il y a dans la Sainte Famille. Le chef, c'est Saint Joseph. C'est pourtant le moindre en grâce, mais c'est lui qui détient l'autorité. Et Jésus et Marie lui obéissent. Dans une famille, le chef, c'est l'homme. Ce qui fait sa valeur, c'est la paternité. Et cette paternité, il ne l'a pas de lui-même. Il la détient de Dieu. Et avec son épouse, il coopère à l'action créatrice. En donnant la vie, il collabore avec Dieu créateur. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le don de Dieu le plus précieux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser de la vie, trafiquer avec la vie. Il faut donner la vie. Et ensuite, élever, éduquer les enfants. Le responsable, c'est le père de famille. Il ne peut pas démissionner de cette responsabilité. Il sera jugé là-dessus. Il n'est pas simplement là pour amener de l'argent à la maison, afin que le moulin tourne. Il est là en tant que représentant de Dieu. Il détient la paternité de Dieu. Et il doit être en quelque sorte le prêtre de la famille. Donc il ne peut pas démissionner de ses responsabilités religieuses. Il doit s'affirmer vraiment comme un père chrétien. Le cœur de la famille, c'est la mère, c'est l'épouse. Dieu lui a donné ses qualités, ses vertus de bonté, de miséricorde, de douceur, de patience. Et la Sainte Famille nous donne comme modèle la Sainte Vierge, qui bien sûr était d'une bonté et d'une douceur incomparables. La femme chrétienne, épouse et mère, elle a sa valeur dans l'imitation des vertus de Marie. La pureté, la bonté, la patience, la miséricorde. Autrement, ce n'est plus une femme, comme Dieu l'a voulu. Dieu n'a pas voulu que la femme soit un homme. Et on doit le redire aujourd'hui parce que vous avez tout ce mouvement de revendication qui veulent que les femmes soient des hommes. Il y a les mêmes droits que les hommes, les mêmes travaux que les hommes, les mêmes salaires que les hommes, etc. L'égalité, non. Dieu a fait l'épouse complémentaire de l'homme. Bien sûr, l'époux n'a pas tyrannisé sa femme, c'est pas chrétien ça. Il doit l'aimer comme une partie de lui-même, comme son complément, comme celle justement qui sera le cœur de son foyer. Et l'enfant, lui, c'est quoi? Alors l'enfant, c'est le trésor, c'est le don de Dieu aux époux, c'est le fruit de l'amour. Alors l'enfant, bien sûr, émerveille les parents quand il vient, parce que leur amour se tourne vers lui. Et les parents font tout pour élever les enfants, pour leur donner une situation, bien sûr, mais ils doivent tout faire pour lui donner le salut, la connaissance et l'amour de Dieu, parce que cet enfant et tous les autres qui viennent dans le foyer, parce qu'un foyer chrétien, c'est un foyer qui est ouvert à la vie, et donc disposé à avoir des enfants, parce que la destinée de ses enfants, c'est une destinée éternelle. Or, l'enfant, s'il a un trésor dans une famille, il n'est cependant pas le roi. Il est celui qui doit être soumis à ses parents. Et une vraie famille chrétienne doit éduquer les enfants à l'obéissance, à l'effort, au sacrifice. Parce que si les parents passent tout aux enfants, s'ils font les quatre volontés et tous les caprices, et ils en feront vite quelqu'un qui se révoltera contre eux, contre Dieu, et qui risquera de manquer son éternité. Et la famille, elle vit concrètement, jour après jour. Mais chaque jour qui passe est un don de Dieu. Et chaque jour dans une famille doit être un jour chrétien et non pas païen. Un jour où on apprécie ce que Dieu nous donne. Un jour où on essaye de faire la volonté de Dieu et non pas de forcer Dieu à faire notre volonté. Et ce qui unit la famille avec Dieu, c'est la prière. La prière qui est aussi nécessaire que boire et manger. La prière qui ne doit pas simplement être le fait d'un individu, du père
ou de la mère ou d'un enfant, il faut le faire aussi, mais une prière qui soit familiale. Ensemble, une famille qui prie est une famille unie. Et le dimanche, cette famille va se rassembler avec toutes les autres familles à l'église pour la Sainte Messe. Et bien sûr, ce n'est pas défendu de venir la semaine, bien au contraire, surtout en ce moment-ci, où il faut compenser pour tant de messes qui sont manquées, pour tant de gens qui ne font plus rien, qui ne donnent même plus à Dieu son jour. Alors, voyez, toute cette ambiance chrétienne dans la famille, elle vient de l'exemple que Jésus nous a donné dans sa propre famille à lui. Et c'est pour ça qu'il faut demander, particulièrement aujourd'hui, à la Sainte Famille des grâces pour vos familles, pour qu'elles correspondent vraiment à ce que Dieu a voulu d'elles. Et pour que nos jeunes qui se préparent à fonder des foyers le fassent avec des idées chrétiennes, avec l'idéal chrétien. Et le mariage, comme tous les autres sacrements, prend sa source à la croix. Ce n'est pas une école de jouissance où on fait n'importe quoi. C'est une école de sacrifice, de renoncement, où on met à mort l'égoïsme pour laisser la place à la générosité, à la bonté, à l'amour, au don de soi. Alors prions aujourd'hui pour toutes nos familles, pour toutes les familles du monde, et prions aussi bien sûr pour la grande famille spirituelle qu'est l'Église. Là aussi, cette grande famille est secouée aujourd'hui comme jamais, et elle a besoin de revenir repentie au pied de la crèche pour se laisser à nouveau imbiber des exemples que nous donnent Jésus, Marie et Joseph. Prions beaucoup, bien sûr, pour nos familles, mais aussi, surtout, pour l'Église, parce que c'est comme cela que le monde pourra être sauvé, par les exemples vécus par les gens d'aujourd'hui, les exemples que nous donne la Sainte Famille. Ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. La vie chrétienne, vous le savez, est basée sur la foi. Pas n'importe quelle foi, la foi catholique. Qui est basée elle-même sur la révélation, sur ce que Jésus-Christ est venu nous dire. Et c'est ça que nous devons croire. Parce que Jésus-Christ est infaillible, il est Dieu. Et la foi exige notre adhésion complète, totale, à cette révélation. Autrement, on ne peut pas être sauvé. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comment pourrions-nous plaire à Dieu si nous n'acceptions pas ce que Dieu lui-même est venu nous dire comme étant essentiel à notre salut. C'est donc la base. Seulement la foi engendre l'espérance. Et l'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une vertu théologale, surnaturelle, qui vient donc de Dieu, et qui nous fait attendre ce que Jésus-Christ a promis à tous ceux qui croient. Et qui observe ses commandements. Parce qu'il ne suffit pas de croire. Il faut accomplir ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Quelqu'un qui croirait et qui vivrait dans le péché ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'accomplit pas ce que Dieu veut. Il ne produit pas des œuvres bonnes. Il vit dans le péché. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ promet à ceux qui croient et qui observent ses commandements? Mais il promet le bonheur éternel, après cette vie, et en cette vie, il promet la grâce, les biens nécessaires à la vie, le pardon des péchés, l'accueil favorable à nos prières. Jésus-Christ est venu nous promettre le bonheur éternel du ciel. Il dit très clairement, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et moi, je vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher pour que vous puissiez être avec moi. » Vous savez, c'est tous les jours qu'on apprend la mort de telle ou telle personne. Parfois, on est très surpris parce que la personne est morte subitement. Et que nous sommes faits pour le bonheur éternel. Nous ne sommes pas faits pour ici-bas. Et donc, il nous faut viser toujours ce bien éternel, ce royaume des cieux. Et c'est ça que Jésus est venu nous promettre. Et la Sainte Vierge le rappelait à Sainte Bernadette, « Je ne te promets pas de te rendre heureuse ici-bas, mais dans l'autre monde. » C'est l'espérance, une attente confiante dans cette possession du ciel qu'un jour Jésus nous donnera si nous sommes fidèles à le suivre. Et entre-temps, sur la terre, il nous promet la grâce. Il nous promet tous les secours nécessaires pour faire le bien et éviter le mal, quel que soit notre état de vie, notre condition sociale. Il nous promet son aide. Et son aide, nous devons bien sûr la demander dans la prière. C'est le sens de la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Jésus nous promet toujours le secours. Ce sont ce que nous appelons les grâces actuelles, qu'on peut recevoir plusieurs fois par jour, et qui nous aident à nous diriger en fonction de la foi, de cette lumière surnaturelle qui nous guide et qui nous fait rechercher le bien et éviter le mal. Et Jésus nous promet aussi de nous aider dans les biens matériels, temporels, parce qu'il est Père, il nous donnera toujours ce qui nous est nécessaire. Mais il nous dit, ne vous souciez pas trop de cela, ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni des habits que vous mettrez, laissez ça. Ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là. Ne vous souciez pas pour le lendemain. Ben pour ceux qui sont morts, il n'y a plus de lendemain terrestre. Ils sont dans l'éternité. Et toutes les choses matérielles, même les plus attirantes, ne sont plus rien du tout. Elles n'ont plus aucune valeur. Et le danger qu'il y a toujours pour nous de rechercher les choses matérielles. Et quand on met trop son cœur dans les choses matérielles, qu'est-ce qui arrive? On oublie les choses éternelles. On oublie Dieu. Et alors, on risque de s'en aller vers l'éternité sans trop penser à la responsabilité que nous avons face à Dieu. Et Jésus nous promet aussi le pardon des péchés. Ça, c'est capital, parce que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être purifié sans cesse. Et Jésus nous dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Donc il promet le pardon à tous ceux qui demandent pardon. C'est lui qui est le bon pasteur, qui court après la brebis perdue, et a donc aucune situation humaine qui soit inextricable pour Dieu. On peut toujours se convertir, même si on se trouve dans une très mauvaise situation, comme le bon larron sur la croix. Il a pu obtenir le paradis au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a cru que Jésus était Dieu, parce qu'il a mis son espérance en lui. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a reçu en récompense le ciel de la part de Jésus lui-même. Et donc à tout péché, il y a possibilité du pardon, à condition qu'on demande pardon. Et Jésus nous promet d'exaucer nos prières, parce que il est Dieu. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'obtiendrez. Et vous l'obtiendrez. Peut-être pas toujours de la façon dont nous le voulons, nous, mais toujours pour le plus grand bien spirituel de notre âme. Eh bien, chers frères, l'espérance, c'est une vertu très importante dans notre vie. Nous vivons d'espérance. Nous sommes toujours dans l'attente. Vous voyez, le vieillard Siméon avait reçu de Dieu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il était vieux, il allait tous les jours au temple, il attendait avec confiance, il désirait voir la venue du Messie, et un jour il l'a vu, quand la Sainte Vierge et Saint Joseph sont arrivés au temple avec l'enfant Jésus pour le présenter. Le vieillard Siméon, éclairé par le Saint-Esprit, a compris que cet enfant était le Messie. Et alors il l'a pris dans ses bras, il a béni Dieu. « Maintenant tu peux laisser mourir en paix ton serviteur, car il a vu de ses yeux le Messie, la lumière, qui vient éclairer Israël et toutes les nations. » Il vivait d'espérance, cette espérance a été comblée. Combien de gens qui ont prié avec nous, qui ont fait un bout de chemin avec nous, qui ont cru, qui ont espéré, sont maintenant dans la possession du royaume des cieux. Ils n'ont plus besoin ni de croire, ni d'espérer. Ils sont dans la vision de Dieu. Et c'est ce qui va nous arriver. Nous sommes dans l'attente de cela. Dans quelques temps d'ici, dans quelques années, ben nous serons dans l'éternité. Nous serons dans la pleine possession de ce que Dieu a promis si nous accomplissons ce que Jésus a demandé, si nous croyons et si nous observons ses commandements. La vie passe vite et il ne faut justement pas oublier le but pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Voilà, mes chers frères, cette espérance. L'espérance est une vertu peut-être trop souvent oubliée, qui n'est pas à confondre avec l'espoir. L'espoir, c'est une chose purement humaine. Ce n'est pas une vertu surnaturelle, l'espoir. La vertu surnaturelle, c'est l'espérance qui fait qu'on compte sur Dieu. On est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a promis et qu'il tient toujours parole. Il est fidèle dans ses promesses. Et parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est bon, en vertu de ses mérites, nous pouvons compter dessus. Nous ne serons pas déçus. Nous ne comptons pas sur nos mérites à nous, parce qu'alors ça serait de la présomption. Nous comptons sur les mérites de Jésus, sur sa toute-puissance, sur sa bonté. Et c'est lui qui va alors nous donner un jour la pleine possession de son royaume. Voilà. C'est ce que rappelait du reste saint Paul dans l'Épître d'aujourd'hui, en écrivant aux chrétiens de Thessalonique. Il disait justement combien il était impressionné par leur foi, leur charité et leur espérance, et qu'ils étaient venus finalement des modèles dans toute la région. Et alors il les encourageait à persévérer et à progresser toujours plus. L'Évangile, mes bien chers frères, a une puissance dynamique qui va jusque dans l'éternité. Ça part de rien, mais ça aboutit à une plénitude parfaite. Jésus prend quelques paraboles, l'histoire du grain de sénevé ou de la levure qu'une femme met dans un peu de farine. Ça a l'air de rien, un peu de levure, ça fait lever toute la pâte. Bien, les choses de Dieu se passent ainsi. C'est tout petit pour commencer. Et puis, si on correspond à la grâce que Dieu donne, ça se développe. Et ça se termine dans la plénitude du royaume. Vous voyez, lui-même, Jésus a commencé avec rien, à Bethléem, dans une crèche. Qui aurait cru que ce petit enfant né dans la crèche aurait sauvé le monde, était Dieu? C'était rien aux yeux du monde, et c'était pourtant tout. Il y avait cette force divine en lui qui a fait qu'il a sauvé effectivement tous les hommes. Regardez la très sainte Vierge Marie, aux yeux du monde, elle était rien. Et pourtant, elle était la plus belle femme de tous les temps, pleine de grâce l'Immaculée dans sa conception. Et maintenant, elle est la reine du ciel et de la terre, la reine de l'univers, la mère de Dieu. Regardez les apôtres, c'était 12 pauvres hommes. Et encore, l'un d'entre eux a trahi, il a finalement perdu son éternité. Ils sont partis à la conquête du monde avec rien, sans influence, sans argent, sans instruction, uniquement avec la foi et l'espérance, et la promesse de Jésus qu'il ne les abandonnerait pas, qu'il serait toujours avec eux. Regardez les résultats qu'ils ont produits. Ils sont allés partout prêcher l'Évangile, et ils ont planté la croix de Jésus, ils ont donné leur vie, et on en parle encore maintenant. Regardez l'Église elle-même, elle est partie de rien, et parfois, dans certaines situations de l'histoire, elle semblait être anéantie, humainement parlant, et toujours, il y a en elle cette force, ce dynamisme qui fait que ça devient un grand arbre. Ça repart toujours. Petite chose qui aboutit à de grands résultats. S'il y a la foi et l'espérance. Regardez Icône. Qu'est-ce que c'était Icône? Rien du tout. Petit coin inconnu. Il y avait la force de Dieu. Dieu a choisi, certainement, cette œuvre pour refaire le sacerdoce catholique. Et malgré toutes les attaques, ça prend une dimension mondiale. Partout, on parle de cela. C'est la même chose pour notre âme. Ça n'a l'air rien du tout, le baptême. Quand on baptise un petit enfant, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Et on met dans son âme un dynamisme, une force qui va l'amener jusque dans le ciel. Si fidèle à la grâce de son baptême. Alors, voyez, mes chers frères, comment il faut avoir confiance? C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est d'avoir confiance en Dieu, en sa grâce, en son secours, dans toutes les situations, même les plus inextricables. On ne sera jamais déçu avec le bon Dieu. Et alors, il faut progresser toujours. Il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on fait, se décerner trop facilement des diplômes de sainteté. Non, il faut rester bien humble et puis progresser. Sans cesse disposer son âme à recevoir de nouvelles grâces pour produire toujours plus des bonnes œuvres, les œuvres de la foi, les œuvres de la charité. Et c'est ça qui nous constituera, nous aussi, alors, des modèles. Des modèles pour les autres. Car nous devons tous, les chrétiens, être des modèles. Et comment serons-nous modèles? Bien, justement, en vivant notre foi, notre espérance, notre charité chrétienne, ces trois vertus théologales, en donnant le bon exemple. Rien ne remplace l'exemple. Ça vaut tous les discours. L'exemple d'un homme, d'une femme vraiment chrétienne, qui accomplit son devoir, qui croit et qui pratique les œuvres de la foi, et qui attend tout de Dieu avec confiance, qui reste dans l'humilité, et qui fuit le péché, comme étant le plus grand obstacle, bien sûr, à la possession du royaume. Qui c'est qui peut attendre l'espérance du bon Dieu? Ben, celui qui vit d'une façon sainte, et le pécheur qui se repent. Ceux-là peuvent attendre la récompense, le fruit de l'espérance. Les autres qui ne se soucient pas de Dieu ou qui vivent dans le péché sans chercher à se repentir, qui n'observent pas les commandements, ceux-là, même s'ils disent « Seigneur, Seigneur », n'auront pas le fruit de l'espérance. Voyez bien, chers frères, nous arrivons à la fin de l'année liturgique et l'Église, justement, nous met devant les yeux cette réalité du but. Dimanche prochain, ce sera l'évangile de la fin du monde. Pas seulement notre fin à nous, mais la fin de notre monde. Car notre monde finira. Il n'est pas éternel. Alors, il faut bien nous placer devant cette perspective de l'éternité. Et qu'est-ce qui va nous conduire vers cette pleine possession de ce que Jésus a promis? C'est justement l'espérance, avec la foi. C'est une lumière qui éclaire notre vie, et c'est un secours que Dieu sans cesse nous donne pour arriver au but. Alors ayons confiance, justement, dans la grâce du bon Dieu. Ne soyons pas présomptueux, ne soyons jamais découragés non plus. Si Dieu est avec nous, et si nous voulons, nous, être avec Dieu, eh bien nous aurons toujours toutes les grâces nécessaires pour faire notre salut. Ainsi soit-il.